Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Bienvenue, bonne veine. Esperanto Magazine au numéro 289, Ducent Okdek Now. Nous sommes le 6 juin, la Sesan de Junio. Esperanto Magazine, c'est une heure d'actualité, de découvertes, de rencontres, de reportages, de créations, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazine estas unu hora el sendo parte en Esperanto, parte en la Franca, ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun lundon de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net. Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. À la technique ce soir, c'est moi. Les volontaires sont en vacances, en repos ce soir après un week-end très chargé au congrès catalan d'espéranto. J'y reviendrai. Donc j'aurai l'occasion à la fois de faire la technique et en même temps de mener l'émission et de lire les rubriques. Donc pardonnez-moi les petites erreurs techniques qui arriveront sûrement d'ici 21h. Cette semaine, vous retrouverez la rubrique habituelle Qui Onovas, Quoi de Neuf et l'agenda en fin d'émission. Mais sinon, nous accueillons des invités ce soir à l'occasion du Forum des Langues du 19 juin qui se rapproche. Nous aurons le plaisir d'accueillir trois invités et nous parlerons de l'ukrainien et de la situation en Ukraine. Je vais quand même saluer mes invités. Donc nous aurons Bernard de Fréquence Slave. Bonsoir Bernard.
Bonsoir, dobry vecher.
Dobry vecher. Nous aurons Véronica qui nous parlera entre autres de l'association Yaroslavna. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et nous aurons Marc de l'association Une Violette pour l'Ukraine qui a été créée très récemment. Bonsoir et bienvenue Marc.
Bonsoir à vous.
Donc on présentera plus en détail ces associations, ces initiatives et ces personnes un petit peu plus tard, mais pour l'instant un peu de musique avant de passer à la rubrique Quoi de neuf. Je rappelle que la musique, c'est toujours en partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo et on écoute tout de suite Corto Maltese Jacquivar.
Ci estas melodi. Estas vojaĝo Corto Maltese sur la marbord Tenorcis Brasil en Copenhague en Fidrinque de Santiago Tenorcis Brasil en Copenhague en Fidrinque de Santiago Estas aventur al mal proximo, maristar luctema, cae mar viri. Tenolcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinquei de Santiago. Tenolcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinquei de Santiago. Li el fablo de Veniso, ombro de marist sur Siberia train. Denolcis Brasil en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. Denolcis Brasil en Copenhague, en Fidrinque de Santiago. A Radusti en lia aventuro sulla long vel ship chi u fore portasni. Denorcis Brasil en Copenhague en fidrinkei de Santiago. Denorcis Brasil en Copenhague en fidrinkei de Santiago. Denorcis Brasil en Copenhague en fidrinkei de Santiago. Denorcis Brasil en Copenhague en fidrinque de Santia.
Kio novas?
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Kio novas?
Kio Novas, Cataluna Esperantisto est une revue éditée par l'Association Catalane d'Esperanto qui paraît deux fois par an avec un contenu d'une cinquantaine de pages en espéranto et en catalan. Elle traite des droits linguistiques, des langues internationales, des langues minorisées, de l'histoire et de l'actualité de l'espéranto et d'autres langues construites. Le dernier numéro vient de paraître en juin 2022 et est le premier à sortir après le décès de sa rédactrice en chef, Montserrat Franquesa, il y a quelques mois. La langue islandaise est mise à l'honneur dans ce numéro avec 4 articles. Dans les pages littérature, par ailleurs, a signalé un article de Carlo Minaya sur le retour du prix de l'Académie d'Espéranto et une critique de Anna Manero sur la dernière parution de l'Association catalane d'Espéranto, une traduction des écrits d'écrivaines ayant participé aux Jeux floraux internationaux. Dans la rubrique Mouvement, la revue revient sur les dernières assemblées générales des associations catalanes d'espéranto ou sur le programme passé des jeudis espérantistes de l'Athénée libertaire de Gracia à Barcelone. À signaler aussi une présentation du livre de Xabi Alcalde, disponible dans notre librairie par ailleurs, sur les liens précoces entre les mouvements anarchistes et espérantistes. Et enfin une interview de Carme Canovas Banos, une espérantiste catalane depuis de très très nombreuses décennies, qui raconte entre autres anecdotes comment l'espéranto a pu aider à soigner son fils de la polio dans les années 60 grâce à des contacts avec des espérantistes bulgares, la Bulgarie à l'époque étant plus avancée sur ce sujet de sur cette maladie. Donc voilà, donc ça c'était sur la revue catalane d'Esperanto, Resume en Esperanto Nun, Mi presentis rapide en la Franca, la en havon de la lasta eldono numero de la revuo Cataluna Esperantisto qui ujus aperis. Voyage à Kazuhinio, ou Voyage à Kazuhinio, est un roman de Sandor Chasmari, excusez-moi, je prononce sûrement mal son nom, écrit en langue hongroise et en espéranto. La version hongroise est parue en 1941 et la version en espéranto, éditée par l'association SAT, est parue en 1958, rééditée en 1998. Ce livre était épuisé depuis de nombreuses années, ce classique de la littérature de science-fiction en espéranto, heureusement apparaît cette année grâce à une nouvelle édition et une nouvelle mise en page de nos amis de l'association de la Société d'Espéranto de Bialystok en Pologne. Donc vous pouvez retrouver Voyage al Kazuhinio sur leur librairie en ligne pour l'instant et très bientôt également dans la nôtre. Si vous ne connaissez pas encore ce roman, Voyage al Kazuhinio, on pourrait dire est une utopie dystopie un peu sur le modèle des voyages de Gulliver de l'Irlandais Jonathan Swift, et on pourrait l'associer aux deux genres d'utopie mais aussi de roman de voyage. En Esperanto Nun, Voyage al Kazuhinio estas romano verkita de Sandor Sasmari en la hungara lingvo kaj ankaŭ en Esperanto. La hungara versio aperis en 1941 kaj la esperantan eldonis SAT en 1952, kiu senŝanĝe ĝin reeldonis en 1999, kaj post multaj jaroj ĉi tiu klasikaĵo de malutopia Esperanto literaturo aperas en nova composto danke al Bialystoka Esperanto Societo, baldaŭ en nia libroservo kaj jam en tiu en tiu en la libro servo de Bess. Et pour finir, une petite annonce pour tous ceux qui ont la chance d'avoir moins de 25 ans encore, voire même moins de 26 ans, vous avez encore le droit de faire un service civique. Et notre association propose de nouveau, comme chaque année, comme deux fois par an, quatre missions en service civique à partir de septembre 2022. Les candidatures sont ouvertes et vous avez jusqu'à la mi-juin pour candidater avant des réunions d'information et entretien. Donc une mission plutôt pour les étrangers de 12 mois à Toulouse et trois missions internationales en partie à Toulouse et en partie chez des partenaires espérantophones, d'autres associations d'espéranto à l'étranger. Donc en septembre, ça sera des missions pour qui se termineront les cinq derniers mois, donc un an de mission en tout, les cinq derniers mois, soit en Italie, pour aider à préparer le congrès mondial d'espéranto de Turin en 2023, soit en Croatie, dans un centre de documentation à l'est de la Croatie, soit en Allemagne, à côté de Berlin, dans une gare réaménagée en centre culturel et centre linguistique chez nos amis de Esperanto Stazio. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, à candidater via la plateforme du service civique ou à nous contacter. Vous avez plus d'infos sur notre site toulouse.oxeo.net. Et petite parenthèse, je n'oublierai pas de signaler que si vous voulez aussi faire un volontariat, d'autres associations d'espéranto proposent d'autres missions, comme par exemple Théo, qui aussi recrute en ce moment, pour une mission à Rotterdam, à leur siège, qui commencera aussi en septembre, et ça sera dans le cadre cette fois-ci du Corps européen de solidarité, un autre programme de volontariat. Doyen mi jus annoncis en la Franca che candidatigioi bonvenas por niai kvar novaj misioj pri Civita Servo, kiu komenciĝos en septembro, aŭ unu jaron en Tuluzo, aŭ la tri aliaj parte en Tuluzo kaj parte en Italio, Kroatio kai Germanio. Do ne hesitu candidatigi, informigi en nia reteio. Vous retrouvez bien sûr tous les liens des événements, des sites que j'ai évoqués sur notre podcast dans un jour ou deux, toulouse.oxeo.net. Je rappelle que Oxeo s'écrit O-2-C-E-O. Et on écoute maintenant en introduction à notre thème de la soirée, une adaptation de Yomo, notre Jean-Marc Leclerc toulousain, de la Mahnovchina en espéranto. C'est une nouvelle version qui est parue dans la compilation Esperanto Subgrunde qui vient de sortir donc chez Vinyl Cosmo. On l'écoute tout de suite.
Mahnovchino, Mahnovchino, igras flagoj pro la malesper. Ili ruĝas pro kolero, ili nigras pro mizer. Ili ruĝas pro kolero, ili nigras pro mizer. En la montoj kaj en la valoj, sub la neĝoj kaj en la ven. Rumeniaj partizanoj jam alkuris ja. Mahnovchino, Mahnovchino, en vi luktis la partizan. Ili ruĝas pro kolero.
Rencontre.
Rencontigio.
On se retrouve donc dans le studio Esperanto Magazine jusqu'à 21h avec nos invités ce soir. Et le contexte, c'est le Forum des langues qui se rapproche le 19 juin, une date nouvelle pour le Forum qui avait l'habitude de se dérouler, en tout cas avant la pandémie, fin mai. Donc cette fois-ci, c'est le 19 juin. Une date en partenariat aussi avec Peuple Musique au cinéma qui aura lieu à la Cinémathèque le même week-end, en lien aussi avec Rio Loco qui aura lieu un peu au même moment. Donc une nouvelle date, mais toujours les mêmes grands principes pour le Forum des langues. Présentation de langues sur la place principale de Toulouse, une soixantaine d'associations qui présentent plus de 100 langues. Évidemment, notre association y sera pour présenter l'espéranto, en compagnie de plein d'autres associations que nous recevrons. Et ce soir, nous accueillons des associations un petit peu dans ce cadre pour lancer un peu la communication autour du forum. Et pour commencer, je vais peut-être présenter Bernard, qui est à l'origine un petit peu de cette émission ce soir. Donc Bernard, tu peux peut-être raconter rapidement comment t'es venu l'idée de proposer cette émission, et puis après on donnera la parole à Véronica.
Absolument. Pour alors moi j'ai l'habitude chaque année, parce que je fais ça depuis très longtemps, mm-hmm. puisque je connaissais les organisateurs avant le démarrage du forum, puisque j'étais dans une autre radio mm-hmm. qui n'existe plus depuis, et tous les ans je fais venir des associations, je consulte les présidents, les organisateurs, et on me donne le feu vert. Donc il y a un roulement, il y a eu intérieurement Euromaïdan qui était venu. Donc il se trouve que cette année, j'ai associé deux autres assos, mm-hmm. en l'occurrence Yaroslavna mm-hmm. et une violette pour l'Ukraine.
Donc Yaroslavna, une violette pour l'Ukraine, qui sont représentées ce soir par Véronica pour Yaroslavna et Marc pour une violette pour l'Ukraine. Je propose de commencer un peu la discussion avec Véronica. Déjà, bienvenue de nouveau. Merci d'être venue. Alors toi, Véronica, tu es ukrainienne.
Oui, tout à fait.
Si
oui.
je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux, avant de parler peut-être plus précisément de l'association, raconter, toi, comment tu es arrivée sur Toulouse? Depuis combien de temps tu es sur Toulouse?
Moi, je suis en Toulouse depuis presque 5 ans. Ça va faire 5 ans en août. Mm-hmm. Et je suis venue en France en 2017.
Ouais.
Parce que à cause de la guerre qui a commencé en 2014 encore, mm-hmm. J'ai passé quelques années en Kiev, et après on est venu en France.
D'accord. Voilà. Tu étais, avant d'arriver à Kiev, tu étais de quelle région d'Ukraine?
Donbass.
Du Donbass, oui. D'accord. Donc c'est voilà, la région au oui. cœur de l'actualité, mais voilà, c'est bien de rappeler aussi que cette histoire a commencé bien plus tôt, donc 2014, quelques 3 ans à Kiev, et maintenant
oui,
à Toulouse, enfin directement après à Toulouse.
Oui.
Et pourquoi Toulouse? Comment ça s'est organisé cette arrivée ici? C'est, tu avais déjà des liens ou c'est
non,
par hasard?
Non, on avait des amis en France, une mm-hmm. famille, et puis voilà, on est venu comme ça parce que on devait venir pour les vacances mm-hmm. et on s'était dit que ça serait pas mal d'essayer de recommencer la vie. En
d'accord.
France, voilà.
Mm. Et est-ce que tu parlais déjà aussi bien français avant d'arriver à Toulouse?
Pas du tout. Je savais même pas dire oui. Je savais même pas dire bonjour.
Mm. Et comment ça s'est passé au début? Tu as tout de suite été au lycée? Peut-être que tu étais au collège à l'époque?
Non, j'ai pas du tout. J'étais à l'école, maternelle, voilà. Je suis arrivée en CM2.
Waouh.
Et j'avais dû la redoubler aussi à cause de la langue. Les deux premières semaines à l'école, j'avais mon téléphone avec le traducteur dessus.
Ouais.
Parce que ça m'aidait de communiquer avec des gens parce que je parlais pas du tout, voilà. Et mon professeur ne parlait pas anglais, du coup je comprenais pas les cours, mais je me suis adaptée, voilà.
Tu parlais un petit peu anglais quand
oui.
même, ouais.
Oui, d'accord. Du coup je pouvais communiquer avec les élèves, mais pas avec les professeurs.
Et ça s'est passé vite, l'adaptation? T'as eu besoin de combien de temps pour te sentir un peu à l'aise et incapable de suivre la scolarité un peu comme les autres?
Deux semaines.
Ouais. Bravo.
Merci.
Et donc maintenant, sans forcément, voilà, on n'aura pas le temps de tout détailler, cette guerre qui revient, en tout cas sur l'actualité. Comment tu te sens, toi, qui déjà ici depuis longtemps, qui a revécu ça? Est-ce que ça a été des moments un petit peu difficiles? Comment tu as vécu ce retour de la guerre, en tout cas dans l'actualité, et puis cette invasion russe de ton pays? Est-ce que tu peux me dire quelques mots?
Tout d'abord, j'étais choquée parce que j'imaginais même pas que ça pouvait arriver.
Mmh.
Et il y a ma sœur qui est en Kiev en ce moment. Elle n'est pas sortie de l'Ukraine parce qu'elle ne voulait pas quitter son mari.
Mmh.
Et ça m'a... Je ne veux pas dire que ça m'a traumatisée parce que c'est comme si je disais que les gens qui sont en Ukraine en ce moment, c'est rien ce qu'ils vivent, mais c'est faux parce qu'ils vivent des choses beaucoup plus affreuses que moi. Et ça m'a... Ça me fait du mal au cœur.
Ta sœur est toujours en Ukraine à l'heure actuelle?
Ma grande sœur, elle est toujours en Ukraine. Okay.
Mm. Ouais, donc c'est toujours ce truc un peu d'être ici, d'être là-bas. Bon, heureusement, maintenant, le soutien est international, la communication est internationale. Oui, oui. C'est plus facile de communiquer peut-être qu'à une certaine époque. On va laisser ça un petit peu de côté. D'accord. On va parler de l'association Yaroslavna. Comment tu les as rencontrés? Parce qu'ils existent depuis pas mal de temps. Est-ce que tu peux juste raconter comment tu les as rencontrés?
On est venus en Toulouse et mes parents, ils voulaient s'adapter. Ils voulaient rencontrer de nouvelles personnes françaises et ukrainiennes.
Mmh.
Et ils ont trouvé des personnes qui parlaient ukrainien et qui parlaient russe. Et c'était justement des gens qui faisaient partie de Yaroslavna et qui leur ont parlé de Yaroslavna, que c'était une association qui... jumelle Toulouse et Kiev.
Mmh.
Et voilà, on est commencé à s'incruster un peu dans l'association, voilà. Moi, je ne faisais pas beaucoup partie. Je commençais beaucoup à s'intéresser à cette association cette année, justement à cause de la guerre, parce que comme je voulais faire quelque chose, mais je ne pouvais rien faire. Du coup, c'est au moins quelque chose. Voilà, ils l'ont rencontré la même année qu'on est arrivé en France.
Mmh. Donc c'est une association, n'hésite pas aussi Bernard, hein, si tu veux compléter, qui est active depuis que le jumelage Toulouse-Kiev existe,
il me semble. Elle est active depuis, de mémoire, au moins depuis plus de 15 ans.
Mm-hmm.
Oui.
Il faut savoir que la ville de Toulouse est jumelée avec Kiev, et non pas Kiev, merci, depuis 1975.
Mm-hmm. Donc c'est plus tard. Ouais. Donc c'est un petit peu plus tard. Le jumelage a eu lieu avant. Et que fait cette association Yaroslavna, on va dire, qu'est-ce qu'elle faisait avant cette année? Parce que cette année particulière, imagine, a changé un peu les priorités.
Oui,
mais quelles sont ses actions habituelles?
Tous les ans, Yaroslavna recevait des enfants ukrainiens. En Toulouse, pour les envoyer dans les colonies de vacances, pour quelques semaines, 3 semaines d'habitude, voilà.
Mmh. D'accord.
C'était surtout sur les enfants.
D'accord. Et des enfants qui viennent de partout, de toutes les régions d'Ukraine, qui les recevaient pour... Et est-ce qu'il y avait aussi des Français qui sont partis en Ukraine à une époque, ou c'était vraiment toujours...
Ça, je ne sais pas.
Je pense que c'était plutôt de l'accueil du côté français. D'accord. Et donc, pour finir un peu sur Yaroslavna pour ce soir, quelles sont les actualités, les activités actuelles, on va dire, dans ce contexte particulier? Est-ce qu'il y a maintenant des choses qui sont organisées, des événements, des...
Là, on envoie de l'aide humanitaire, on envoie des médicaments, des vêtements, des choses comme ça en Ukraine. Et on aide aux gens qui viennent, les Ukrainiens, surtout les mères avec les enfants, parce qu'on reste surtout sur les enfants, de les mettre quelque part, on leur trouve des familles d'accueil, on les aide de s'adapter en Toulouse.
D'accord, très bien. Je fais juste un petit résumé de 2-3 phrases en espéranto pour ceux qui nous écoutent, parce que j'ai oublié d'introduire d'autant plus. Nun ni parolas kun invititoi. Qui partoprenos kiel ni en la lingvo forumo post tri semajnoj en Toulouse, granda evento pri lingvoj kiu okazos ĉe la ĉefa placo, kaj ĉi-vespere ni akceptas ĉefe ukrainiaj asocioin kaj ni kompreneble parolas ankaŭ pri la nuna situacio tie en Ukrainio kaj pri helpoj kun rifuĝintoj, do ĉefe tiuj du asocioj multe aktivas pri tio por subteni rifuĝintojn en Francio aŭ sendi helpon en Ukrainio. Nun étape au musica pauso, on va faire maintenant une petite pause musicale. Merci Véronica, n'hésite pas à continuer à intervenir après. On revient après la pause et on parlera avec Marc d'une violette pour l'Ukraine, une toute nouvelle association. La pause, ça va être, si je ne me trompe pas, Scavirino de Esperanto Desperado.
Amaro estis ĉarma kaj bela afero, rolante kaj movante en la akvo. Exotika ŝajmajka vesper mi kantas: Skavirino venu, skavirino, skavirino venu, dancu kun mi. Skavirino venu, skavirino, Scavirino, venu danzo con mi, disla. Disla, nocto, nocto, fin. Sabat vespere ili iris a la club. Ili al cowboy dansis tre intim kaj frustris. Scavirino venu, scavirino, scavirino venu, danzo kun mi. Scavirino venu, scavirino, scavirino venu, danzo kun mi. La nocto, nocto, fin.
Yeah.
revient après cette petite pause musicale, donc une émission pour lancer le Forum des langues qui aura lieu le 19 juin. On accueille plusieurs invités et on va parler de l'Ukraine et de la situation actuelle avec notamment Marc. Bienvenue à nouveau à vous.
Bonsoir.
Représente ce soir une association, alors que je ne me trompe pas, une nouvelle fois, une violette pour l'Ukraine. Est-ce que, Marc, vous pouvez nous présenter un petit peu cette association, quand elle est née, pourquoi, comment ?
Alors tout d'abord, je tiens à signaler, donc moi je suis français, je suis marié avec une Ukrainienne qui s'appelle Zoriana, et toute ma belle famille est donc en Ukraine, enfin tout ou partie maintenant, puisque je vais peut-être vous en parler un petit peu plus tard. Et le 24 février dernier, vers 5h du matin, nous avons reçu un appel d'une nièce nous indiquant qu'il y avait déjà un certain nombre de bombes qui étaient lâchées et que la situation était vraiment critique. À partir de là, nos nuits sont devenues très courtes. Et au bout de quelques heures, nous nous sommes concertés avec mon épouse et nous avons décidé de faire quelque chose à notre niveau de Toulouse. Et nous avons créé donc une association loi 1901 humanitaire qui s'appelle Une violette pour l'Ukraine. Donc l'objectif, pour faire très simple, c'est d'envoyer, de collecter un certain nombre de dons, de les envoyer en Ukraine et de revenir avec des réfugiés.
D'accord.
Donc ça, c'est le cheminement simple à expliquer. Et puis, en organisant tout cela, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire, la première étape, c'est d'envoyer des dons. Donc, nous avons l'avantage de faire partie d'un réseau de danseurs, mon épouse étant danseuse internationale et juge de danse internationale. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de réseaux, et notamment en Ukraine, évidemment. Donc elle a commencé à constituer un réseau pour l'association pour s'assurer notamment que les dons arriveront, puisque ça c'est un des problèmes majeurs. Les dons sont interceptés, pillés par, par les soldats russes. Et, donc nous organisons des distributions un peu avant la frontière, en collaboration avec les services intérieurs polonais. Et donc, on le fait de manière très discrète afin de pouvoir les passer en Ukraine pour qu'ils arrivent à destination. Grâce à tous ces réseaux, on cible de manière très précise les dons et où ils vont être envoyés. Le médical, on va savoir exactement quel hôpital on va fournir et quels sont leurs besoins.
D'accord.
La nourriture, elle est envoyée plutôt pour les militaires dans le Donbass actuellement, par exemple, etc. Et ça, on le fait pour tout un tas de dons.
D'accord.
Pour faire fonctionner tout ça, donc on utilise le réseau de la danse toulousaine et même en France. Et les salles de danse deviennent point de collecte.
D'accord.
Voilà, comme le Trac à Toulouse, mais il y en a d'autres.
Oui, le Trac qui est juste en face
de la radio.
De Canal Sud.
et donc on organise toutes les trois semaines, un mois à peu près, un convoi. Le premier convoi est parti trois semaines après le début de la guerre.
D'accord.
Et on est revenu avec une quinzaine de réfugiés. Et donc, on fait ce roulement de manière très régulière.
D'accord.
Donc ça, c'est l'activité principale de l'association. Et puis ensuite, on intervient de manière très ponctuelle pour aider des Ukrainiens qui sont en très grande difficulté. Notamment, souvent des mamans avec leurs enfants. Nous avons fait venir une dame qui était atteinte d'une maladie grave et sans secours ne pouvait pas survivre en Ukraine, puisque les hôpitaux sont dédiés maintenant que pour les militaires. Donc on l'a fait venir très vite par avion et prise en charge à Toulouse, notamment à l'hôpital La Grave, qui se charge de toute la partie médicale des réfugiés.
J'imagine que ça doit être un travail de fou quand on n'est pas du domaine a priori, puisque vous dites que vous êtes de la danse, pour mettre en place toute cette logistique, toute cette prise de contact. Vous avez dû y passer un temps fou, non?
Oui, mais alors, on a passé énormément d'heures, notamment la nuit, à supporter la famille qui s'est réfugiée dans les bunkers. Parce que ce qu'on appelle les bunkers dans les médias, ce sont les sous-sols finalement des immeubles, hein, ouais. Ce ne sont pas des vrais bunkers, donc quelquefois deux niveaux en dessous du sol, où les gens se sont réfugiés de manière très très rapide et ne sortaient la journée que quelques minutes, le temps d'aller se faire une boisson chaude, parce qu'il ne faut pas oublier que les températures étaient négatives, hein, à ce moment-là, et redescendre directement dans les bunkers. Et c'est vrai que les communications, hein, vous en parliez tout à l'heure, passaient très bien, et ça a été une grande aide, hein, notamment pour notre famille. On a pu faire des appels vidéo, les supporter, et le plus dur, c'était évidemment la nuit, quoi.
Ce soutien moral est finalement peut-être aussi important que le soutien matériel aussi, dans ces situations-là.
Tout à fait. Pour vous donner un chiffre, par exemple, au bout d'une semaine de guerre, juste à Kiev, il y a eu 400 accouchements dans les bunkers ou dans le métro, etc. Le soutien est vraiment indispensable, mais pas que en Ukraine. Hein. Lorsque les réfugiés arrivent à Toulouse, on garde contact, on les met en contact aussi avec des psychologues, des associations qui sont vraiment spécialisées là-dedans. On n'a pas vocation à tout faire. On se concentre sur ces convois et on accompagne, mais globalement... ce soutien, il est important, y compris en France, hein, puisqu'ils arrivent dans un pays où ils ne connaissent rien, ils ne parlent pas la langue, et tout est nouveau pour eux, dans un contexte difficile. Et Nicolas a expliqué tout à l'heure, souvent les gens restent aussi parce que les maris sont mobilisés.
Oui, des femmes seules ou femmes avec enfants, beaucoup qui sont là. Est-ce que, pour Véronica, toi, maintenant aussi, tu participes un peu à cet accompagnement, vu que tu es bilingue, des familles qui arrivent pour les aider? Est-ce que tu as été en contact avec des mamans ou des enfants qui sont arrivés plus récemment à Toulouse?
Moi, j'ai aidé surtout à mes proches, notamment une amie, à moi et à ma mère, et à ma tante qui sont venues. Je leur faisais la traductrice, mais vu que je suis au collège, je ne peux pas vraiment beaucoup leur aider.
Oui, c'est vrai que tu es très jeune, j'oublie de la façon dont tu parles, mais tu es encore au collège, oui, c'est vrai. Tu dois aller à l'école, au collège tous les jours. Oui, après c'est vrai que ce soutien, il est associatif et ça permet de dédoubler, de pouvoir aussi faire intervenir d'autres personnes qui n'ont pas forcément de liens familiaux en Ukraine, mais qui ont envie, le désir d'aider, de faire quelque chose, de ne pas être complètement les bras, ne pas savoir quoi faire pour soutenir. Je fais une petite parenthèse aussi, parce que c'est vrai que dans le milieu, le réseau espérantiste, il y a aussi un petit peu ce genre de choses qui s'est fait, des personnes qu'on connaît par le milieu espéranto, qui sont venues et qu'on a aidées aussi, parce qu'on avait ce lien particulier avec elles. Je pense notamment à Oksana, que j'ai rencontrée récemment, ou à Svetlana, qui a passé quelques semaines à Toulouse, chez des espérantophones. Il y a du soutien qui se met en place à tous les niveaux. C'est important d'être coordonné et d'agir sur tous les plans. Quelques infos pratiques peut-être, si on veut aider et qu'on n'est pas danseur, on peut quand même vous soutenir d'une certaine manière.
Tout le monde est un peu danseur. Hein.
C'est vrai, des danseurs en devenir.
C'est ça. Donc nous, si vous tapez une violette pour l'Ukraine sur Google, vous allez nous trouver sur Facebook évidemment. On a un site internet également,
site
Instagram. Donc, comment nous aider? Les points de collecte, ce sont les salles de danse. Donc, toulousaines, vous pouvez amener tout ce qui concerne le médical, l'hygiène, etc. Mais on publie régulièrement les listes à jour, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, on va vraiment cibler les besoins. On communique également sur nos plateformes un lien vers une cagnotte qui permet de financer également les trajets, puisque évidemment les minibus et les cars, il faut les financer. Et même si on a des partenaires qui jouent vraiment le jeu, je pense à une société qui s'appelle Alcis, qui travaille beaucoup avec les handicapés aussi, etc., sur la région, qui nous font des bus gratuits, qui nous font des bus à très faible coût, mais il faut payer l'essence, il faut payer le péage, il faut payer l'hôtel aussi et la nourriture aux réfugiés lorsqu'on les ramène. Donc, donc voilà.
Est-ce que, dernière question avant de refaire une pause musicale, est-ce qu'il y a toujours des besoins d'hébergement de familles? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a quand même pas mal de familles, et c'était le cas de notre amie la Svetlana qui retourne en Ukraine à l'heure actuelle. Est-ce que c'est un appel qu'on peut continuer à faire s'il y a des gens qui ont de la place chez eux pour accueillir des personnes, ou est-ce que c'est moins urgent en ce moment? Je ne sais pas si vous le savez.
Oui, alors nous, on travaille avec la mairie de Toulouse et donc on est en lien avec les différents responsables qui nous permettent de savoir justement quelles sont les capacités, parce que nous, on veut bien ramener des réfugiés, mais on veut être sûr que derrière, ils vont avoir un logement, ils vont avoir tout le processus d'intégration assuré. Donc aujourd'hui, il y a encore de la place. Il y a encore des gens qui sont en attente, qui veulent aider. Pour ça, il faut juste s'inscrire sur le site de la mairie de Toulouse.
Il y a une liste d'attente, donc le mieux c'est de se manifester.
Il y a un formulaire, et puis selon votre profil, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on ne vous appelle pas tout de suite que vous n'êtes pas enregistré, c'est que ça dépend aussi des profils, des familles qui arrivent, et par rapport au profil de votre logement, et puisqu'ils essayent d'adapter au mieux, évidemment.
Très bien.
Voilà.
Merci Marc, petite pause musicale de nouveau avec Chiara, si je ne me trompe pas. Chiara qui est une chanteuse italienne qui chante en espéranto. Et on revient parler avec Bernard et vous aussi de ce qui se passera sur le stand ukrainien ou autour de l'Ukraine au Forum des langues. À tout de suite.
Sempre perdonai. corazón perdona. Rompedlo.
On se retrouve après cette pause musicale toute douce avec Chiara, avec nos invités. Donc on a parlé de l'Ukraine, l'association Yaroslavna, une violette pour l'Ukraine. Voilà, si vous voulez aider, vous pouvez contacter ces associations. Bien sûr, on mettra les liens sur notre podcast, sur notre site. On va revenir sur au début de la boucle sur ce qui a amené les invités ici ce soir. C'est aussi le Forum des langues qui, de façon plus festive, malgré tout, dans cette situation difficile, mettra à l'honneur les langues du monde et l'ukrainien, au milieu évidemment de toutes ces langues, avec un stand qui aura une connotation particulière, mais qui va présenter la langue et la culture ukrainienne comme tous les ans. Bernard, tu essayes de le faire avec des partenaires un peu différents. Donc cette année, qu'est-ce qu'il y aura sur le stand ukrainien? Et puis après, on parlera du programme peut-être plus de spectacles, mais d'abord sur le stand, qui y aura
sur le stand, parce que le stand n'est pas très grand, puisqu'il fait 3 mètres sur 3 à peu près, hein, on le sait. Il y aura, comme d'habitude, je dirais entre guillemets, de l'alphabet, notamment l'alphabet cyrillique, ukrainien cette année, je le stipule, parce que j'ai eu présenté plusieurs alphabets cyrilliques, parce qu'il y a certaines lettres qui ne sont pas identiques en Bulgarie, en Russie, en Ukraine.
Oui, l'alphabet est différent selon les langues.
Il y aura des livres, avec des grands poètes comme Taras Shevchenko, qui sont traduits en français.
Ouais.
Puisqu'il y a un éditeur qui s'appelle Bleu et Jaune qui va venir. Donc il y aura les deux associations que nous venons d'évoquer, Yaroslavna et une violette pour l'Ukraine. Donc ils vont présenter leur culture, leur langue, leur costume. Moi, j'aurais plus ou moins demandé de venir habiller en vichyvanka. Alors, ceux qui ne savent pas ce qu'est une vichyvanka, c'est un tissu, une chemise en lin qui est brodée à la main. Alors, chaque région d'Ukraine a son motif et ses formes géométriques et ses couleurs. Ce qui fait qu'il y a à peu près une centaine de formes et couleurs différentes, suivant si vous êtes à Lutsk, à Odessa, à Dnipro ou à Donetsk, qui est occupé actuellement. Voilà, donc ça c'est pour la partie tente, stand on va dire plutôt, parce que tente ça fait un peu militaire, en cette période de guerre, on va l'éviter. Sinon, comme cette année nous sommes reliés avec la Cinémathèque, il y aura le samedi 18 juin, c'est-à-dire la veille, entre 17h30 et 18h, Véronique Girard. Alors, je pense que vous la connaissez, Véronique Girard.
Oui, Véronique.
Parce que Véronique Girard, un avantage, c'est qu'elle est polyglotte. Elle fait de l'espéranto, de l'anglais, de l'ukrainien et un peu de russe. Voilà, donc elle va nous faire un tour de spectacle qui va durer une bonne demi-heure, avec des contes et des chansons ukrainiennes à l'intérieur de la place de la Cinémathèque, entre deux diffusions de films.
D'accord.
Donc ce sera le samedi 18, 17h30, 18h.
D'accord.
Pour ce qui est du dimanche, donc on revient à la place du Capitole. Là, il y a aussi un spectacle. Donc ça sera, là, une petite troupe qui sera présentée par Tatiana Klimiuk, qui va nous faire un spectacle d'une vingtaine de minutes entre 17h55 et 18h15 sur la scène sonorisée.
Sur la scène sonorisée, donc plutôt côté rue du Poids de l'Huile.
Absolument, du côté entre
façon,
parking.
On l'entend, généralement, elle est sonorisée, on la trouve.
Bon, et après, on fera plus tard d'autres animations, mais dans d'autres événements qui vont suivre. Pour l'instant, on va rester sur le forum. Mais comme cette année, tout est regroupé, il y a la Cinémathèque, il y a le forum Place du Capitole, il y a le Rio Loco, et quelques jours après, il y a le Grand Fénétra.
D'accord. D'accord, vous allez y participer.
On retrouvera aussi
au
Grand Fénétra, par exemple, la chorale franco-slave, qui fera une représentation autant sur les quais de la Dorade que sur le Jardin des Plantes.
Les dates du Fénétra ?
C'est le 2 et 3 juillet. On reviendra en parler.
D'accord, on essaiera de vous inviter à nouveau, ou en tout cas d'évoquer les dates et de le rappeler. Donc, le Forum des langues, on va refinir là-dessus. C'est le stand ukrainien, mais c'est aussi une soixantaine d'autres stands et de langues qui sont présentés. Un événement festif, convivial, dans ces moments-là, c'est important de montrer que les langues et les cultures peuvent et devraient vivre en bonne entente et en bonne communauté, les uns à côté les autres, et pas essayer de dépasser et de minoriser les autres langues, les autres cultures et voire même les autres peuples parfois. Malheureusement, trop souvent, ça arrive en Ukraine, mais pas seulement. N'oublions pas les autres conflits aussi du monde et les autres peuples qui subissent le même genre de situation dramatique. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. On va refaire une petite pause musicale avec un groupe ukrainien espérantophone. Alors attention aux oreilles, éloignez-vous du poste, ça va faire mal aux oreilles, c'est du métal. Ça s'appelle Pichismo, ça fait partie de la compilation Subgrunde. Et tout de suite après, ça sera pas long, on reviendra pour faire un rapide agenda des prochains événements autour de l'espéranto à Toulouse, parce qu'en dehors du forum, il y a d'autres petites choses qui se passent. Donc à tout de suite. Pour l'instant, il faut que je retrouve Foriro. C'est celui-là. C'est parti, Pichismo.
Agenda.
Agenda.
C'était Pichismo pour finir cette thématique ukrainienne en musique. Quelques petites infos très rapidement en français pour laisser la place à l'émission suivante. Donc ce vendredi, Manjo Klatch ou Repatchatch de l'association mensuelle précédée de notre réunion associative à l'Envolée, place des avions à Toulouse, dans le quartier de Rangueil. Le vendredi suivant, donc ça sera le 17, si je ne me trompe pas, nous irons au rendez-vous des voyageurs rue Mercadier. Ils nous accueillent pour une petite initiation à l'espéranto et manger ensemble et échanger entre espérantistes, espérantophones, voyageurs. On a plein de choses à partager. Si vous voulez vous mettre à l'espéranto avant l'été, notre dernier stage aura lieu le 25 et le 26 juin, toujours dans les Pyrénées, dans le Couserans, à côté de Saint-Girons. Voilà, il y y a plusieurs niveaux, donc débutants. Et on accueillera aussi à cette occasion une vingtaine de jeunes d'un peu partout en Europe qui viendront suivre une formation en parallèle de notre stage. Bien sûr, je rappelle, le 19 juin, nous seront place du Capitole pour présenter l'espéranto, sa culture, des livres, faire des petites initiations, des petits cours toute la journée sur la place du Capitole. On n'a pas encore ni pour l'ukrainien ni pour l'espéranto d'emplacement précis, mais vous venez le jour même, vous vous promenez, vous visitez tous les stands et vous allez forcément trouver les deux nôtres. Merci à nouveau aux invités. J'ai oublié de demander comment on dit merci en ukrainien.
Дякую.
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 Дякую. Дякую. Ça ressemble un peu au polonais.
Дякую. Mais l'ukrainien est très près du polonais.
Ok. Donc дякую à tout le monde et à bientôt place du Capitole. On se retrouve et puis voilà, vous êtes les bienvenus dans une prochaine émission dans les semaines qui viennent. Si vous avez d'autres communications importantes à faire, n'oubliez pas le podcast sur notre site toulouse.oxeo.net pour écouter l'émission, retrouver les liens. La semaine prochaine, on accueillera trois nouvelles associations autour de l'allemand, une association guinéenne et Lagarde qui était déjà venue il y a quelques mois pour parler des Antilles et de la Guyane. Et ils seront aussi au Forum des langues. Donc on continue la série. Le générique et puis l'émission suivante, encore excusez-nous, du retard. Gis, à la semaine prochaine.
Do pobaczenia.
Do pobaczenia. Dziękuję. Do pobaczenia. Esperanto. 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 Esperanto, Esperanto, Esperanto.